à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Paix de Jésus-Christ et de Marie, chers auditeurs, vous m'avez questionné sur l'école de l'autre dans notre vie. En effet, l'autre, le frère ou la sœur sur notre chemin, est-il source d'émerveillement ou d'accusation? Il est des êtres humains qui s'émerveillent pour les fleurs, d'autres pour les oiseaux ou encore les charmants papillons. Au Rwanda, une Américaine, Diane Fossey, fut émerveillée par les gorilles, ces gros singes d'Afrique, au point qu'un jour son fiancé lui aurait dit « Tu dois choisir, moi ou les gorilles ?» et elle aurait choisi les gorilles. Accepte-t-on de s'émerveiller, sans naïveté mais dans la vérité, pour chacun de ses frères, chacune de ses sœurs de communauté, si l'on est dans un couvent par exemple? C'est la même chose, et cette attitude me paraît fondamentale pour le bien vivre sa vie et ne pas passer à côté de l'essence même du sens de la vie. C'est du moins le message que je désire ardemment laisser à mes sœurs et à mes amis. Si je devais rechoisir ma vie, je rechoisirais aujourd'hui ma communauté d'Abana à Tula Batroun. Vivre, c'est être en relation. Rappelons d'abord quelques évidences pour attirer notre attention sur ce don précieux que Dieu nous fait de la présence des autres à nos côtés. Dieu vit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Lorsque l'homme reçoit de Dieu une aide qui lui soit semblable, il s'émerveille, il parle, il aime, mais bien vite il accuse. Toute la richesse, la complexité se trouve dans ce commencement. Il n'existe pas de temps ni de durée avant ce conflit entre les deux attitudes. La présence de l'autre suscite ou l'émerveillement ou l'accusation, et parfois un peu les deux. Personne n'y échappe. Ou je me réjouis de la présence de l'autre et je l'aime, ou je l'accuse. On peut même sentir cette tension entre Joseph et Marie, quand Joseph pense à la répudier, à la renvoyer. L'ange intervient et parle à Joseph dans sa conscience et l'émerveillement prend le pas sur l'accusation. Tout être humain est fruit d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Dans le mystère même de l'incarnation, Dieu veille à ne pas éliminer cette relation amoureuse entre Marie et Joseph. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse, elle te donnera un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est dans cette relation, à son père et à sa mère, que le Verbe de Dieu lui-même a appris à parler, que tout enfant accède à la parole, à la culture véhiculée par le langage et par là à tout un système de relations avec les autres. Toute culture est porteuse aussi d'une dimension religieuse et donc d'une certaine relation à Dieu. Au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant devient capable de relations personnelles tant avec les autres qu'avec Dieu, et ces relations peuvent dépasser, franchir les limites de sa culture. On voit Jésus, à 13 ans, découvrir un nouveau visage de Dieu Père et entretenir une relation de fils avec lui. Bien des enfants font une expérience un peu semblable quand ils découvrent leur vocation et que cette vocation est en opposition avec le désir de ses parents ou de l'entourage. L'âge adulte est marqué par une rupture avec les parents. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront plus qu'un. C'est dire que même adulte, l'homme ne peut se passer d'une relation forte avec l'autre. Il se choisit une partenaire hors de sa famille, parfois hors de son pays ou de sa culture, et fonde une nouvelle famille. C'est pourquoi le célibat est souvent associé à une vie communautaire, communauté religieuse, presbytérium ou association. Le célibat doit être motivé par une intégration particulière dans l'Église ou dans la société, par le service des malades, des seniors, des handicapés, des enfants, des malheureux en difficulté. Ce célibat est parfois renforcé par une consécration. Dans le cas de l'ermite, que je vis personnellement dans ma chair, la tradition insiste beaucoup sur une initiation dans la vie commune et sur une forte relation avec un père spirituel ou à une mère spirituelle, et parfois encore mieux avec les deux, car la complémentarité est une richesse. Une ermite qui voudrait se passer de toute dépendance d'un guide spirituel sombrerait vite dans l'illusion et parfois dans la folie ou le suicide. On connaît certains cas assez tragiques, même de nos jours. Ainsi, l'autre sur ma route de vie est une personne humaine qui est à l'origine de notre vie la plus personnelle. L'autre est le médiateur qui me permet une relation à Dieu. L'Ecclésiaste nous dit au départ de sa réflexion, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. » Mais cette crainte du Seigneur, comment la découvrir si personne ne nous la transmet? Que demandes-tu à l'Église? La foi. Tel est le dialogue qui introduit le catéchumène dans l'Église. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Romains 10. C'est à partir de cette écoute, de cette relation à la communauté qu'est l'Église, que se construit notre vie spirituelle comme vie de relation à Dieu. Comprenant tout cela, nous sommes établis dans la reconnaissance et l'émerveillement de ce cadeau inouï que Dieu nous fait en chacun de ceux qu'il a placés sur notre route et qui ont tissé la trame de notre existence. Vous m'avez demandé comment notre vocation de priante ermite d'Abana vit cette relation à l'autre. C'est un peu comme la moniale, celle qui est séparée de tous, mais unie à tous. Nous avons choisi de vivre sous une règle et les priantes sont sous l'obéissance de la sœur-mère responsable. On ne se soumet pas à un texte, mais à une parole, celle d'une femme choisie par ses sœurs pour dire la règle et représenter Jésus. En bien des domaines, c'est la sœur-mère qui décidera, suivant le nombre de sœurs, la rigueur du climat, la dureté du travail, la pauvreté de chaque lieu. C'est elle qui admet une sœur, etc. L'enseignement et l'exemple de la sœur-mère influent évidemment sur la communauté. La maison de prière ou le monastère est une école de vie et d'amour, où l'on vit l'obéissance aveugle aux supérieurs, mais aussi à nos sœurs de vie ou frères et à ceux qui frappent aussi, pour venir prier avec nous. Notre vie a le vœu de stabilité. On se lie pour la vie à la communauté qui est composée de femmes très concrètes, qui ont leur tempérament, mais aussi leur façon personnelle de voir, concevoir et vivre leur vocation. Abana, la vocation, d'où certaines options dans le domaine de l'accueil, de la liturgie, du rapport au monde, de l'économie. Chaque communauté a son style de vie et qui est plus ou moins convivial. Elle évolue certes, mais dans des limites que je dois accepter. Et choisir de vivre sous une règle et une sœur-mère responsable, eh bien, cela souligne l'importance de l'obéissance. En outre, j'ai à obéir à d'autres dans le travail, dans le champ, dans la santé, dans la formation. Il ne s'agit pas d'abstraction, mais d'obéissance à des personnes très concrètes. Si je veux que cette obéissance soit libre et responsable, je dois donner à ses sœurs et à ses frères un minimum de confiance. Or, dans ce domaine de la confiance, nous avons à travailler toute notre vie, car la confiance peut se perdre. Elle peut se retrouver, grandir ou diminuer. Je dois toujours me persuader que la confiance demeure possible. Refuser toute confiance à une sœur ou à un frère, c'est l'excommunier et même le tuer moralement, lui refuser d'exister pour moi. Ce serait grave. Je peux avoir été trahie et devenir prudente, mais je ne dois jamais désespérer d'une sœur ou d'un frère et m'installer dans la méfiance. Jésus a fait confiance à Judas jusqu'au bout. À Pierre, qu'il a renié, il va lui confier l'Église. Et les autres apôtres qui l'ont lâché demeurent ses amis. La méfiance tue l'émerveillement et nous situe dans l'accusation comme Adam après la faute. Sachons donc chacun, comme Jésus, bénir Dieu notre Père, non seulement pour notre frère Soleil et notre sœur la Lune, mais pour chacun de nos frères de vie, et notre communauté, notre Église, deviendra un magnifique champ d'action de grâce et une véritable Eucharistie, une source de paix durable.
Ils revenaient ensemble de Jérusalem. Ils parlaient de cet homme cloué sur une croix. Ils parlaient de cet homme qui à Jérusalem disait qu'il était le Fils de Dieu et le roi. Ils revenaient ensemble et vint un voyageur. Parlait de cet homme qu'on a mis au tombeau, qui au troisième jour, aux premières lueurs, des femmes ont aperçu vivant simple et si beau.
Oh, si beau! Oh, si beau!
Ils revenaient ensemble de Jérusalem. Le voyageur leur dit que tout était écrit. Il expliqua le livre depuis Mathusalem. Il leur dit que cet homme était l'homme promis. Ils revenaient ensemble et voulurent manger. Le voyageur partit, mais reste avec nous ici. Ils partagent le pain et leurs yeux étonnés ont vu qu'à Emmaüs, c'était lui, c'était lui.
Emmaüs. Emmaüs. Emmaüs.
Je crois que la sauvagerie des tueries à Gaza fait que nous pourrions nous interroger tous sur nous-mêmes. Ne sommes-nous pas tous coupables? Comment est-ce que je vis ma relation à tous les autres, mais surtout avec ceux qui me sont le plus proches? Très proches, car ils entrent dans mon domaine de chaque jour. Je veux dire, pour nous, qu'est-ce que la charité? En général, nous envisageons la charité de façon active, aller vers les autres, leur rendre service, avoir souci de leur santé, de leur fatigue. Mais est-il toujours assez facile de soi-même prendre ces initiatives, plus facile que de se laisser déstabiliser par l'autre? Il est plus facile de donner que de se laisser emprunter ou voler, c'est normal. Mais imiter Dieu, vivre dans le Christ, c'est donner au commandement de l'amour fraternel une dimension illimitée, une mesure infinie. Depuis que Jésus a mis sur le même plan l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il faut aimer Dieu et le prochain de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Mais la vraie question que cache la première se trouve en Luc 10, 29, je le cite. « Et qui est mon prochain ?» Il ne pense pas à se demander « qui est Dieu, croyant le bien savoir. Dieu ne peut être confondu avec personne, il est forcément l'unique puisqu'on ne le rencontre nulle part. L'aimer même de tout son cœur n'est pas un problème, car aucune mesure connue ne peut nous faire le reproche de ne pas l'aimer suffisamment. si ce n'est l'amour dû au prochain, puisqu'il est semblable à l'amour dû à Dieu. Saint Jean en fait la remarque, je le cite, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Aimer Dieu comme il doit être aimé, c'est aimer son prochain sans mesure. Pour Jésus, tout homme, toute femme est son prochain. Mon prochain, c'est l'autre. Comme je vous le répète sans cesse, chers amis libanais, au regard de l'amour, l'autre est l'égal de Dieu, car il est le lieu de l'altérité absolue. La grande révolution religieuse accomplie par Jésus, c'est d'avoir ouvert aux hommes une autre voie d'accès à Dieu que celle du sacré, la voie profane de la relation au prochain, la relation vécue comme service d'autrui et poussée jusqu'au sacrifice de soi. Il est devenu sauveur universel pour avoir ouvert cette voie accessible à tout homme, quelle que soit sa religion. Jésus a payé de sa propre vie. L'important pour un être vraiment libre est de pouvoir construire sa vie au lieu de la subir. Si je subis des événements sans adhésion intérieure, sans oui profond, je ne crée plus mon histoire. Je perds ma liberté de décision, je ne suis plus capable d'inventer ma vie, j'ai l'impression qu'on m'a volé ma vie et que d'autres ont décidé à ma place. Or, être plein de générosité, c'est construire sa vie sur le don de soi sans calcul ni limite. Cette générosité va loin car elle accepte que l'autre entre dans ma vie, puisque ma vie déjà lui appartient, que je la lui ai donnée. Le cardinal Ratzinger écrivait, je le cite, « Mais revenons aux paroles du Christ qui nous dit « C'est quand tu crois que tu dois être ton seul maître et te défendre toi-même que tu te perds, car tu n'es pas construit comme une île, tu n'es pas un moi qui repose sur lui-même, mais tu es construit pour l'amour et donc pour te donner, pour renoncer, pour être émondé de toi-même. C'est seulement si tu te donnes, si tu te perds, comme le Christ le dit, que tu pourras vivre. » Eh bien oui, là se trouve la grande difficulté. Accepter d'être émondé par l'autre, d'être taillé et donc amputé de quelque chose de soi-même, si c'est d'une branche sans fruit. Alors que c'est seulement si tu te donnes, si tu te perds comme le Christ le dit, que tu pourras vivre. Comment manifester cette tendresse, une tendresse qui sait demeurer virile? Chacun de nous a un besoin fondamental de se sentir connu, apprécié, aimé. C'est dans le regard que je porte sur lui qu'il percevra cette tendresse. Mais plus encore, dans le oui porteur de tendresse. Notre oui doit chercher à susciter la vie, éveiller la confiance et l'amour. Si nous ne pouvons pas accorder ce qu'on nous demande, on peut toujours accorder un sourire et une bonne parole. Jean-Paul II soulignait l'importance ecclésiale du témoignage donné par une communauté unie et fraternelle. Réaliser une vraie communion dans l'amitié est une mission d'Église. Le monde a besoin, grand besoin, de rencontrer de telles communautés. Si les fidèles apprécient notre liturgie, c'est parce qu'elle exprime une vraie communion fraternelle, une joie d'être ensemble, une fraternité d'amitié sainte. L'attention mutuelle aide à dépasser la solitude. La communication pousse chacun à se sentir co-responsable. Le pardon cicatrise les blessures et renforce de la part de tous l'engagement à la communion. Et je crois que l'Église, afin de présenter à l'humanité son vrai visage, a besoin de petites familles fraternelles qui, par leur existence même, contribuent à la nouvelle évangélisation. Celle du dynamisme d'amour fraternel qui seul conduit à l'amour mystique du Verbe, car l'un ne va pas sans l'autre. Dieu se présente toujours dans l'inattendu et jamais dans le figé d'une routine. Dieu est l'inédit, l'imprévisible. Dieu bouscule et réalise en même temps qu'il propose, laissant juste la place à un oui rapide, spontané et joyeux. Si l'on refuse, Dieu n'insiste pas et il se retire. Dieu reviendra mais ne force jamais une liberté malgré parfois les apparences. Dieu est patient, mais souvent se présente avec l'impatience de l'amour. Un oui d'amitié, en effet, se donne spontanément et ne se fait pas attendre. M'aimes-tu ? Tu sais bien que oui. Alors, suis-moi. Et l'autre, ne t'inquiète pas pour lui. Toi, suis-moi. Donc, cette semaine, découvrons à quel point nous sommes aimés et croyons-y. Et engageons-nous avec l'Église dans une aventure toujours nouvelle. Sainte semaine. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.